EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Bienvenue dans la table avec Annabelle et c'est parti pour une nouvelle semaine. Bon lundi à vous toutes. Bonjour Nadège.
Bonjour Annabelle.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Et bonjour à notre invitée Sephora.
Salut,
Sephora.
Bonjour.
Oui. Plaisir de t'avoir. Alors Sephora, c'est ta première fois ici avec nous.
Ouais.
Mais tu n'es pas une inconnue, tu n'es pas une étrangère pour nous.
Non.
Surtout pour... Bon Stéphanie, je sens que tu trépines d'impatience. Dis-le.
Sephora travaille avec moi. Oui. C'est mon amour, c'est mon bras droit.
Mais t'en as déjà parlé, ceci dit, dans
une émission.
À quelques reprises.
Je pense que j'ai déjà.
Elle est trop fière, tu vois.
Mais oui,
Sephora, c'est mon assistante. Donc, félicitations, Sephora, pour ta carrière d'assistante.
Oui, ma carrière d'assistante.
Mais tu n'es pas venue nous parler de ça.
Oh, non.
Non, mais dans une autre émission, tu pourras nous raconter toutes les bizarreries de Stéphanie.
J'en ai plein.
J'en ai plein.
Voilà.
Juste une peut-être alors pour commencer.
Non.
Allez.
J'ai pas des bizarreries, mais non, je veux l'honorer aujourd'hui. On va être sympathique. Je veux me faire réinviter pour parler d'elle.
Et Stéphanie est la même.
Perdre ton travail.
Sur le stage et hors stage. Vraiment,
elle est aussi bizarre sur le stage que hors stage.
100% naturelle et 100% naturelle. Puis c'est vraiment un privilège de travailler, comme je dis, avec elle. Elle aime pas dire que je travaille pour elle.
Et c'est le
sentiment que j'ai sur mon travail ensemble. C'est une bonne.
Parce que je lui ai dit, ah ouais, tu vas être avec ta boss aujourd'hui. Puis elle m'a dit, ah, elle aime pas quand on dit ça.
Non, parce que pour moi, on fait un travail d'équipe, tu vois. Ouais. Chacun a sa position, chacun est important. Il n'y a pas de position plus élevée que l'autre. Ensemble, et ensemble, on va plus loin. Si elle n'était pas là, il y a des choses que je pourrais pas accomplir. Et j'ose espérer qu'il y a des choses que, parce que je suis là
ça
aussi,
énormément avec Stéphanie peut, aussi, là.
Accomplir des choses. Ouais. Donc voilà, c'est le et c'est le commencement d'une belle année. Ce n'est que le commencement. Moi, je pense, voilà.
Bah écoute, peut-être que du coup, la prochaine fois, tu reviendras pour en parler.
Non, mais c'est ce que j'aime, c'est de, en fait, l'idée de quand tu travailles, et c'est pas le but de l'émission, là, mais l'idée, c'est de faire que les gens puissent aussi avancer. C'est pas juste quand ils travaillent pour toi, c'est d'assistant, par exemple, c'est que, moi, mon but, c'est que Sephora apprenne et qu'elle aille plus loin dans l'appel que Dieu a sur sa vie. Donc, mon but est pas de la limiter, mais de la propulser. Donc, si je peux contribuer.
Un beau sujet, beau sujet. Eh bien, écoute, mais Sephora, tu es là aujourd'hui pour nous parler un peu plus de toi. Puis le fait d'ailleurs que tu puisses aujourd'hui travailler avec Stéphanie, ça fait partie de tout ton parcours et de tout ce que Dieu a fait pour toi. Et on va repartir très loin, enfin pas si loin parce que t'es pas si vieille.
très loin.
Quand l'électricité
n'existe plus ici, moi.
Tu sais que mes enfants, mon prénom c'est Sephora. Sephora dans la Bible c'est la femme de Moïse.
Ouais.
Mes enfants pensaient. Lia m'a dit un jour, maman, est-ce que tu t'es mariée avec papa parce que Moïse est mort? Donc eux, ils pensent que je date du temps de la Bible.
La logique.
Wow.
Je ne suis pas si vieille.
Non, t'as pas l'air vieille non plus. Mais on va revenir.
Moi, je me suis mariée avec Abraham.
Oh, ok, continue. Donc, on revient à ton enfance parce que tu as grandi dans une famille chrétienne et ça aurait pu être une belle histoire, mais en ce qui te concerne, ça a été une enfance très difficile. Parce que c'était une famille chrétienne mais très dysfonctionnelle.
Ouais.
Et du coup tu vas pouvoir nous raconter ton parcours parce que entre cette enfance et aujourd'hui la femme que t'es devenue, une femme qui aime le Seigneur, une femme qui est engagée avec le Seigneur, qui aime aussi l'église et l'église locale. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Parce que c'est pas un parcours qui a été facile. Donc pour revenir, t'as grandi donc dans ce foyer chrétien dysfonctionnel.
Oui, exactement. Je suis née dans une famille chrétienne, on allait à l'église, les réunions de prière, les dimanches matin, les dimanches après-midi.
J'étais... Ah oui, donc très engagée.
Ah oui, très engagée. Mais à la maison, j'aime dire ça, que notre vie, elle était une vitrine.
Mm-hmm.
C'est que il y avait l'apparence. On n'était pas des gens qui étaient riches. J'ai jamais manqué de rien. Mais on avait quand même, on était bien. On avait une super belle maison. On a quand même vécu une belle enfance, mais pas dans l'excès, tout ça. Mais notre vie vraiment était une vitrine. Quand j'ai commencé à raconter mon histoire, les gens n'auraient pas pu croire à ce que j'avais vécu. Parce que bon, il y a toute une partie que Dieu a restaurée, mais il y a aussi une partie qu'on cache parce qu'il y a une honte, parce qu'il y a une, tu sais pas ce que les gens vont comprendre, puis tu veux, peux pas partager non plus, c'est tellement intime. Et je me suis, à 18 ans, j'ai découvert le Seigneur pour moi. Mm-hmm. J'ai donné ma vie à Dieu. J'ai commencé à le suivre avec des up and down de jeunes adultes. À 20 ans, j'ai rencontré Dany qui est devenu mon mari. Donc, ça fait 20 ans qu'on est mariés l'année prochaine. On a 3 enfants. Et bon, nos enfants grandissent, on se marie, on a nos enfants. Puis là, je commence à remarquer que je veux pas faire comme de la même façon que j'ai été élevée. Je veux pas reproduire les mêmes choses. Je veux pas que mes enfants revivent ce que j'ai vécu. Et puis un jour, je me souviens, c'est un soir de Noël. On est avec mes frères, ma belle-sœur, mon mari. Puis on parle un peu, on explique un peu. Puis ma belle-sœur me dit, mais est-ce que tu sais que c'est pas normal ce que t'as vécu?
Genre, tu racontais tes souvenirs.
Ouais, on raconte des trucs avec mes frères. Puis on en riait un peu. Tu sais, quelquefois, mm-hmm. c'est comme l'humour fait passer à travers beaucoup de choses. Et on se rend compte que mon mari aussi me dit, mais c'est pas normal. Puis là, OK, bon, la vie passe. En 2017, mes parents se séparent. Mm-hmm. Donc moi, à cette époque-là, j'ai mes 3 enfants, Maëlie, Liam et Joshua déjà. En 2017, mes parents se séparent, puis là, j'ai commencé à descendre. Parce qu'en fait, tout ce que j'ai vécu dans mon enfance, j'ai fait ce qu'on appelle de l'amnésie traumatique. Mm-hmm. Ton cerveau, alors je suis pas une pro dans la psychologie, tout ça, mais ce qu'on m'a expliqué de ce que je me suis renseignée, c'est que ton cerveau te protège quand il mm-hmm. y a des choses qui sont trop fortes, puis que t'es pas capable de les vivre, de les digérer, et c'est ça. Donc en 2017, mes parents séparent. Puis 2018, début janvier 2018, là, je commence à plus bien aller. Ça va pas. Je me réveille la nuit en hurlant. Je fais des rêves. Mais je me réveille comme en hurlant. Et je me souviens de scènes de mon enfance.
Mm-hmm. Auxquelles tu n'avais jamais repensé.
Auxquelles j'avais jamais repensé, mm-hmm. que j'avais oublié en fait. C'est comme si j'étais sur le cruise control, le pilote mm-hmm. automatique. Puis tu vis ta vie, tu vis tes émotions. Mais j'avais toujours des émotions qui étaient comme plus... égal, parce que chez nous, c'était pas permis d'avoir des émotions. Puis tu gardais toujours cette vitrine-là, que personne doit savoir, que personne doit dire. Puis même nous, entre nous, on en parlait.
Donc beaucoup de contrôle au niveau de tes émotions.
Énormément de contrôle. Énormément.
De l'image que tu renvoyais.
Énormément. Il fallait que je sois parfaite. Mm-hmm. Parce que j'étais habituée comme ça. Il fallait toujours atteindre la perfection. Donc je me souviens un épisode quand je me suis mariée. Mon mari m'a dit, il y a des tomates qui sont en train de pourrir dans le frigo. Puis il dit, on va juste les vider puis les mettre à la poubelle. Et ça m'a... C'est niaiseux comme exemple, mais c'est vraiment... Ça m'a vraiment bouleversée. Comme, oh, j'ai pas été parfaite. J'ai pas fait ce qu'il fallait que je fasse. Donc là, tout de suite, tu te remets en question. Mm-hmm. Tu te dis, OK, j'ai pas été parfaite. Donc là, il va plus m'aimer. Donc là, ça crée un cycle que... Mais mon mari m'aime plus. Donc, faut que j'en fasse plus. Puis ça a été mon cycle pendant plusieurs années.
À cause de tomates pourries.
À cause de tomates pourries dans le frigo. Tu sais, mm-hmm. c'est rien, là.
Mais là, tu t'en rendais compte que c'était anormal comme système de pensée?
Non, pour moi, c'est... Oh, je réagis comme ça, mais... Et après, en 2018, donc, quand je me réveille la nuit en faisant des cauchemars, et je validais avec ma mère, est-ce que ça s'est passé? Elle dit, oui. Puis je suis remontée à des souvenirs dans mon enfance que j'avais 1 an. Mm-hmm. Des choses qui se sont passées quand j'avais 1 an. Et puis, donc tu te lèves le matin, là, mais tu n'as pas une belle journée. Mm-hmm. Tu descends progressivement. Et en fait, je ne dormais plus. C'était cyclique. Je ne dormais plus parce que tu as peur de t'endormir, parce que tu dis, je vais me réveiller pendant la nuit en hurlant. Mon mari, il n'a aucune idée quoi faire. Puis tu sais, dans ce temps-là, en 2018, la santé mentale, on n'en parle pas comme aujourd'hui. Et à cette époque-là, j'ai des amis, sont toujours dans ma vie. Et elle a remarqué que j'allais pas bien. Il y en a une qui est travailleuse sociale et l'autre est éducatrice spécialisée. Donc ils ont un peu vu ce qui se passait parce que elles-mêmes ne connaissaient pas mon histoire.
Ah, okay.
Parce que j'en parlais pas.
Okay. T'en parlais vraiment pas.
À ton mari, même à mon mari.
Ah ok.
À personne. Personne
ne savait. Et t'en parlais pas. Pourquoi? Parce que
je ne réalisais pas.
C'est ça. Parce que t'avais rien à raconter si ce n'est vos petites anecdotes
d'événements qui se sont passés. C'est ça.
C'est ça.
Pour moi, c'était le normal. Tout le monde vivait ce qu'on avait vécu, en fait. Mm-hmm. Et mes amis m'ont dit, Sef, tu vas pas bien. Donc, ils se sont concertés, les quatre ensemble, se sont concertés et ils ont fait une liste de choses que j'avais dites. Parce qu'à cette époque-là, je voulais tout quitter, en fait. Mm-hmm. Je voulais quitter mon mari, pas parce que je l'aimais, mais c'était too much. J'avais trop de choses que je veux tout arrêter. Je dormais plus, j'étais fatiguée. Puis, tu sais, quand tu dors pas, c'était besoin primaire. Mm-hmm. Tu dors dans la vie. Avec 3 jeunes enfants en plus, là, il fallait que j'assure à la maison. Et en fait, mes amis m'ont pris rendez-vous chez mon médecin traitant.
Ah, oh, wow.
Et il y en a une qui est venue avec moi. Et en fait, et ça a été salvateur pour moi. Elle s'est assise, puis elle a dit, ben voilà ce qu'elle nous a dit. Ça, puis tu sais, mais ils me l'ont redit après. C'est comme, on savait pas comment t'allais le prendre. Tu sais, j'aurais pu dire, mais de quoi vous vous mêlez?
Sûr.
C'est comme venir avec moi chez le médecin. Et en fait, ça a été la meilleure chose parce que quelquefois, tu vas chez le docteur ou tu vas chez un psychologue ou un thérapeute, puis tu racontes ta version des choses. Mais il y a pas tes amis, tes proches voient tes angles morts. Et en fait, mon amie, c'est Caroline, qui était avec moi et qu'elle a fait toute une liste. Puis la docteur m'a dit, ben, vous êtes en dépression slash burnout, là. Vous allez vraiment pas bien. Il faut que vous dormiez, la première chose. Puis moi, j'étais très réticente à tout ce qui était médication. Je voulais pas commencer à tomber sous des antidépresseurs, sous des choses pour dormir. Puis elle m'a dit, il faudrait que tu le fasses. Puis, voyant la gravité de mon état, la gravité de la situation, parce que j'étais quand même capable de fonctionner à la maison, parce que je suis quelqu'un qui...
Mais parce que t'es haute performance, dans le sens, même là, t'étais pas prête à lâcher pour encore cette quête de perfection.
Exactement.
Et être à tous les niveaux.
Et tu sais que mon mari ne s'en est même pas rendu compte que j'allais pas bien. Il savait parce que je me réveillais la nuit puis que j'avais des cauchemars, que je pleurais, que je criais.
Parce que tu fonctionnais.
Parce que je fonctionnais, parce que j'étais vraiment sur le mode pilote automatique. Je faisais à manger pareil, je faisais le ménage, je m'occupais des enfants. C'est juste que mes émotions étaient au neutre, totalement. Mm-hmm. Je ne ressentais plus rien. Et je disais souvent, parce que tout de suite après ça, la docteure m'a donné des antidépresseurs. Donc je les ai pris, mais je m'étais dit, c'est pas vrai que je reste avec ça. Mm-hmm. C'est hors de question que ça va définir ma vie. Et là, je suis allée en thérapie, un thérapeute chrétien, et j'insiste vraiment sur ce fait-là. Un thérapeute chrétien où je pouvais reconstruire les choses, mais bibliquement et par rapport à Dieu. C'est ton ami Daniel que je suis allée voir et qui m'a vraiment aidée, vraiment beaucoup. Et je lui disais souvent, mais j'ai l'impression que mon cerveau et mes émotions sont complètement déconnectées. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se rattache pas. Donc ça, c'était en juin 2018. J'ai fait l'été au complet. Je prenais la médication et je commençais à aller mieux. Je dormais au moins. Je dormais. Et en septembre 2018, je me souviens, je me suis couchée et j'ai dit, mais Seigneur, je peux pas continuer comme ça. C'est comme mon cerveau et ça se raccroche pas, ça marche pas. Et à savoir qu'à cette période-là, donc j'avais été consultée, j'avais coupé tous mes réseaux sociaux, vraiment toute distraction. J'avais fait ce choix-là de tout couper.
Et
de...
ta relation avec le Seigneur, c'était comment?
Ben, je prenais du temps vraiment, je m'allongeais. Juste, Seigneur, répare-moi. Mmh. Fais quelque chose. La seule chose que je lisais, c'était ma parole. Mmh. Puis parce que je voulais pas, parce que souvent tu vas aller voir un psychologue ou un thérapeute qui est pas chrétien, puis tu sais comme, ah, la force est en toi. Et moi, je voulais vraiment que ce soit avec Dieu, parce que c'est ça, parce qu'on est chrétien, puis je voulais vraiment que ma vie soit rebâtie avec Jésus, totalement, qui a cherché en dedans de moi ce qui avait à changer. Aussi, tous les chemins de pensée qui étaient pas bons. Ouais. Tu sais, comme juste les tomates qui étaient pourries, de remplacer ça par quelque chose que c'est pas grave, c'est des tomates. Et d'enlever ce côté haute performance aussi. Et je me souviens qu'un soir, je suis couchée et j'ai vraiment une expérience avec le Seigneur. Vraiment, j'ai senti que ça se reconnectait. Wow. Je l'ai vraiment senti. Ça fait comme clac. Puis je me suis levée le lendemain matin. J'ai expliqué ça après au thérapeute. Il dit, ouais, t'as vécu quelque chose avec le Seigneur. J'ai continué ma thérapie. Je suis allée voir ma docteure, au mois d'octobre, parce que le temps que tu prennes rendez-vous, c'est un petit peu plus long. Je vais voir ma docteure, je lui explique ça. Bon, elle, ok, bon, d'accord. Elle dit, mais je veux pas que tu arrêtes tes antidépresseurs avant le mois d'avril. Parce qu'on sait qu'ici, au Québec, l'hiver, l'automne, ça
la
peut être...
La lumière aussi.
Ouais, le mois de novembre qui est compliqué, la lumière. Puis je dis, ok, je vais l'écouter. Puis je me suis sevrée de médication. J'avais pas une forte dose, mais je me suis sevrée de médication en mars-avril 2019. Puis j'ai continué ma vie.
Mm-hmm. T'as-tu senti le besoin de parler avec ta femme, avec ta mère, ton père, de retourner?
Oui, on est retourné. J'ai parlé plus avec ma mère et mes frères. Okay. C'est sûr que ça a été compliqué parce qu'on vit tous les choses d'une façon différente. On digère tous les façons différentes, puis on est tous rendus à des stades différents. Mm-hmm. Moi, j'ai vécu ça, mes frères l'ont vécu plus tard. Mm-hmm. Donc, ça a été un petit peu en décalé. Aussi, les discussions avec ma maman, je me souviens de ma cousine qui était une bonne médiatrice là-dedans qui nous a vraiment aidé à se comprendre aussi parce que elle avait sa position de maman mais moi j'avais ma position de fille aussi que toi tu vivais des choses, nous on vivait chacun nos choses mais nous on était enfants. Donc c'est ça, puis aussi de pardonner aussi de passer au-dessus. Ben oui, il y a eu des manquements mais personne n'est parfait, puis tu pardonnes.
Mais comment t'as fait pour t'as dit c'est à 18 ans que t'as pris une décision pour toi de suivre le Seigneur, mais comment est-ce que tu as vécu le fait, tu vois, d'avoir une image peut-être de Dieu qui était déformée? Est-ce que tu te posais les questions comme, bah attends, est-ce que c'est ça être chrétien? Mm-hmm. Est-ce que c'est ça Dieu? Est-ce que c'est ça l'Église? Est-ce que tu es passé par ces raisonnements et ces périodes-là?
Je les ai vécues, mais plus tard.
Ok, donc
comme
là,
comme j'étais tellement dans un déni.
Ok. Ouais.
J'étais tellement dans un déni que c'est arrivé plus tard. Donc ça, c'était en 2018, l'épisode que je... 2018-2019. Puis ensuite, bah, je continue ma vie avec les enfants, tout ça. Et en 2024, il a fallu que je fasse un travail pour... je faisais des études bibliques. Et il a fallu que je fasse un travail sur la violence intrafamiliale. Et là, j'ai lu toutes sortes de livres. Je pense que j'avais 15 livres que je lisais différents. Puis ça aborde tout plein de sujets différents. La violence physique, la violence émotionnelle, la violence psychologique. Ça évoque vraiment beaucoup de choses. Et en fait, ça m'a... Je pensais que j'étais totalement guérie, que tout était bien. Et en fait, j'ai touché le fond en 2024. Là. Mmh. Avril-mai 2024. Là. Ça a été un moment où mon mari...
Pire qu'en 2018.
C'est différent.
OK.
Mais on dirait que je retournais dans mes traumas. Mmh. Vraiment. Je revoyais des scènes. À un moment donné, mon mari m'a retrouvée à la maison. Il a dû revenir du travail. C'est rare qu'il va rentrer comme ça. Et puis là, j'ai comme, faut que tu rentres parce que ça va pas. J'étais vraiment en train de perdre pied. Vraiment, je sais plus quoi faire. Donc, je suis retournée consulter une thérapeute. Et là, j'ai vraiment cherché une thérapeute qui était spécialisée dans les chocs post-traumatiques. Mm-hmm. Et de ce qu'elle me disait, c'est que j'étais en choc post-traumatique, mais complexe. Mm-hmm. Parce qu'un choc post-traumatique, bon, c'est comme... Moi, j'étais comme, mais je suis pas allée à la guerre, j'ai pas vu... tu sais, tu dis, c'est les soldats qui ont ça. C'est comme, j'ai pas vécu ça, faut arrêter. Tu minimises, en fait, ce que t'as vécu. Et elle m'a dit, mais non, t'es en choc post-traumatique complexe parce que c'est arrivé plusieurs fois durant une période où ton cerveau se forme, où ton identité se forme, ou tout ça. Et donc tout de suite, moi, c'est comme, je vais en thérapie, je vais chercher de l'aide. J'ai pas besoin de médication, j'ai pas été, mais j'ai vraiment comme on dit, j'ai pris le taureau par les cornes. C'est pas vrai que je vais repasser des mois à pas bien aller. C'est hors de question. Et là, j'ai vécu ça avec cette thérapeute-là. Et elle m'a conseillé un livre qui s'appelle « Adopté par le père ». De René Laframboise, qui parle vraiment du fait, ben, ça répondait à mes questions comme tu demandais, t'étais où Dieu? Mm-hmm. T'étais où? C'est ça être chrétien? C'est ça l'église? C'est ça? Même si je remettais pas ma foi en question, parce que pour moi, Jésus a fait une œuvre dans ma vie et Jésus est mort pour moi et puis il est ressuscité et je l'aime de tout mon cœur et je sais qu'il m'a aimé le premier, mais j'avais vraiment ce, je comprenais pas en fait, puis j'avais ce besoin de comprendre, t'étais où? T'étais où pendant toutes ces années-là? Pourquoi tu nous as pas sortis de là? Mm-hmm. Pourquoi? Tu sais, toutes ces questions-là, et ce livre-là m'a vraiment, vraiment aidée. Puis ça, il y a un passage, j'ai plus la citation exacte, mais qui dit que Jésus, en fait, il était en train de porter mes peines, il était en train de porter mes pleurs, en même temps que moi je les portais, parce que lui, il les a portés sur la croix. Et ça m'a vraiment aidée, ça m'a réconciliée aussi avec Dieu le Père, parce que j'avais vraiment ma relation avec le Saint-Esprit, ma relation avec Jésus était belle, si je peux m'exprimer ainsi. Ma relation avec Dieu le Père, pour moi, c'est quelqu'un qui est distant, c'est quelqu'un qui me punit, c'est quelqu'un que...
Il te déçoit.
Il me déçoit. et c'est ça. Et en fait, j'étais quand même distante vis-à-vis de Dieu le Père. Et ça, moi, dire papa dans une prière, j'entendais les gens prier, oh papa, Seigneur. Ils sont vraiment bizarres, ces gens-là. C'est vraiment... j'avais un malaise profond quand les gens disaient papa. J'avais vraiment cette image de Dieu distante et qu'il fallait que je sois parfaite pour qu'il m'aime, en fait. Même si Jésus avait tout donné. Puis cette image de Dieu, tu donnes ton fils. Pour moi, c'est comme, tu donnes ton fils, pourquoi t'es pas venu toi-même, tu sais? J'avais vraiment cette distorsion dans mon image de Dieu.
Et vas-y, continue.
Et suite à ce livre-là, ça m'a vraiment aidée. Puis je sais que c'est un cheminement, je sais que c'est un processus, que ça va pas être bien du jour au lendemain, puis qu'il y a je vais certainement plus tard dans ma vie expérimenter d'autres choses, parce que Dieu, il nous respecte aussi, tu sais, il travaille nos cœurs, puis il nous permet de guérir à notre rythme aussi. C'est, il va pas faire les choses n'importe comment, parce qu'il sait ce qu'on est capable.
Et des fois, la guérison, c'est un escalier, tu sais, il y a une période où
exactement.
On guérit, oups, on monte une marche, oups, puis un temps de guérison, et là on monte une marche, ouais.
Et maintenant, je suis capable de reconnaître des patterns. J'ai beaucoup lu sur le sujet, autant psychologique de ce côté-là, autant chrétien aussi, parce que comme je disais, la thérapeute aussi que j'ai vue en 2024 aussi était chrétienne, parce que pour moi c'était important. Elle me donnait des versets à lire, elle me donnait des...
Mais c'est important parce qu'en plus, tu venais d'une famille chrétienne. Les thérapeutes qui peuvent pas comprendre, tu sais, ou dire,
c'est quoi, c'est bizarre, ben oui, ou c'est quoi cette secte, ou c'est quoi. Tu sais, souvent, tu sais, comme ma docteure, elle a été super, super gentille, super empathique, mais elle me regardait un peu du coin de l'œil quand j'expliquais ce que j'avais expérimenté avec Jésus, puis cette reconnexion que j'avais vécue. Tu regardes comme.
Bizarre. OK. Enfin, je vais doubler ta dose.
Moi, je vais doubler ta dose, c'est exactement ça, tu sais. Mais, ouais.
Et quand tu dis, tu reconnaissais les schémas, mais d'un autre côté, t'en avais pas conscience pendant plusieurs années. Mais là, avec du recul, qu'est-ce que ça avait créé chez toi? T'es dans ta façon de fonctionner, dans tes réactions, dans ta façon d'être, tes mécanismes de défense, ça ressemblait à quoi?
Ça ressemblait à faut que tout soit parfait tout le temps.
Genre quoi, tout?
À la maison, faut que ce soit.
À la maison.
Ouais. À la maison, il faut que je sois parfaite. Si j'avais une réflexion de quelque chose que je n'avais pas fait correctement, tout de suite, c'était la fin du monde. Là. C'est, j'ai pas fait ça, j'ai pas performé, j'ai déçu la personne. La personne ne va plus m'aimer. Et ça, c'est surtout vu dans mon mariage. Parce qu'au début, Dani ne comprenait pas forcément. Tu sais, quand tu ne sais pas ce que la personne vit, même quand tu essaies de l'expliquer, c'est pas évident. Mais c'est comme, il fallait que je sois parfaite. Il fallait que je dise oui tout le temps. Il fallait que je réponde présent tout le temps dans mes amitiés, dans mes relations.
Dans son travail.
Dans son travail.
Elle a été libérée, c'est bon. Elle est plus comme ça.
Mais elle répond oui, souvent.
Mais, et ça a été ça, en fait. C'est, même avec mes enfants. Mais avec mes enfants, même si je ne voulais pas reproduire les mêmes patterns, mais tu le reproduis quand même malgré toi, parce que c'est ce que tu as vu, c'est le modèle que tu as vu.
Et surtout si tu n'avais pas conscience que c'était à ce point-là un mauvais modèle.
C'est ça.
À quel
c'est
point
ça.
Il était dysfonctionnel.
Mes schémas de pensée n'étaient pas bons. C'est comme, il fallait que tout soit tout le temps parfait. Il fallait que mon mari rentre à la maison puis que tout soit parfait.
Mais c'était pas sa demande, quoi.
Ça n'a jamais été sa demande. C'était moi qui vivais avec ce côté haute performance, de toujours faire les choses extrêmement bien, de montrer juste le côté Instagram, Pinterest de ta vie. Pendant des années, je n'ai pas pleuré.
Okay.
J'étais incapable de pleurer. Maintenant, mes amis rient, ils me disent « Ah, c'est bon, t'es vraiment sensible, tu pleures souvent. » Et oui, parce que je redécouvre la beauté. Moi, je suis quelqu'un quand même d'émotif, d'émotionnel, quelqu'un qui est touché par les choses. Et en fait, je ne me le permettais pas. Je ne me permettais pas qu'on puisse voir mes émotions, que les gens soient spectateurs de ma vie. Puis j'étais, même si je suis quelqu'un qui...
Vous pouvez que c'était une faiblesse.
Oui. Ouais. Pour moi, les pleurs, c'était une faiblesse. Les émotions, c'était un risque. Donc, tu ne te mets pas en avant. Tu ne partages pas ce que tu veux. Tu sais, comme l'adolescence, tout ça... J'ai vécu mon adolescence en vivant complètement une double vie parce que tu veux pas te faire prendre dans tout ce que tu fais, dans toutes tes erreurs, dans tes bêtises. Mais c'est comme j'étais rendue à avoir une double vie, mais j'étais très très bonne à avoir une double vie parce que t'es pas capable de voir. Mes parents étaient pas capables de voir parce que tu t'as appris tellement à te protéger, à te surprotéger que rien paraît en fait.
Mais t'es quand tu dis qu'il y a eu ce clac, est-ce que toi-même tu t'es en dehors du fait, oui, d'apprendre à exprimer tes émotions, mais est-ce que finalement, tu as découvert ta vraie identité aussi à ce moment-là, qui était parce qu'il y avait tellement de façades, tellement de masques. Est-ce que c'est à ce moment-là où il y a eu un autre moment où tu as eu une révélation, une découverte de ton identité?
Je dirais que c'est un processus, c'est une découverte. J'ai appris à... J'ai fait des tests de personnalité aussi qui m'ont vraiment aidé aussi à savoir un peu qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. Et ça m'a vraiment aidé aussi dans ce processus-là. Mais de savoir aussi que Dieu m'avait créé comme il voulait, en fait. Comme lui avait décidé de me créer. Et d'apprendre que, à vivre mes émotions, d'apprendre que, c'est correct si j'aime ça. Ah, c'est correct si j'ai cette émotion-là. Et ça a vraiment été, c'est une découverte. J'ai 41 ans, puis je suis encore en découverte de mon identité, de qui je suis, de ce que j'aime, de ce que j'aime moins. Et je pense que c'est
une... Est-ce que tu as fait une découverte qui t'a surprise sur toi-même? Genre, tu pensais que tu étais comme ci ou comme ça, puis en fait, pas du tout.
Mais je pensais que je n'étais pas quelqu'un de sensible, j'étais quelqu'un de dur.
Ah, ça, c'était...
J'étais convaincue que je suis quelqu'un qui est forte, quelqu'un qui est solide, quelqu'un qui est dur. Et je me suis rendu compte, en fait, que je suis très, très sensible. Et ça fait pas longtemps que j'ai découvert. Justement, c'est Sandra qui m'a dit ça il y a quelques semaines. Elle a dit, toi, tu es vraiment hyper sensible, Seth. Je suis comme... Quoi? Et puis là, les filles m'ont dit, là, il y a ça. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un de sensible, mais je ne m'étais jamais permis d'être...
Tu te protèges aussi.
Oui, tu te protèges parce que tu ne veux pas avoir mal. Mais oui, je suis...
Et tu l'as vécu comment de le réaliser?
Mais au début, c'est comme, c'est une faiblesse. Les gens sensibles, ce n'est pas des leaders. Les gens sensibles, ce n'est pas des gens qui vont aller loin. C'est des gens qui vont se faire porter par les émotions. Alors que, tu es sensible, mais ça ne veut pas dire que c'est tes émotions qui te dirigent puis qui te drive dans la vie. Mais ça a été ma découverte de cette année que j'ai découvert que, en fait, je suis vraiment quelqu'un de très sensible à la peine des autres, la misère des autres. Je vais le ressentir. Je savais que je ressentais les émotions parce que c'est comme un, quand tu as eu l'enfance que j'ai eue, tu apprends à read the room, comme on dit en anglais. Je sais pas comment on dit en français, mais à réaliser l'atmosphère, la sensibilité d'une salle dans laquelle tu rentres. J'étais capable de le faire parce que c'était habitué à ça. Tu es comme, oh, faut que je fasse attention parce que là, l'humeur est comme ça, pour pas créer de crise. Donc, c'est une habitude, mais je me rends compte que c'est vraiment une force, en fait. C'est de réaliser ce que l'autre personne, elle vit et ce qu'elle traverse. Puis, tu es capable de le ressentir. Je peux être non plus... je ressens pas les émotions des gens, mais
pas tomber dans le mystique.
Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Mais ça a été ma découverte. Mm-hmm. Je suis quelqu'un de sensible, comme par exemple, j'ai des hauts standards dans mes amitiés, dans mes relations, et je pensais que tout le monde était comme ça. Ce qui fait que t'es déçu, c'est que ça fait de la peine, mais tu te rends compte que, non, c'est juste comme ça que tu fonctionnes et c'est d'accepter. Je suis encore dans ce processus-là. Là, c'est d'accepter que c'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins, c'est pas tout le monde qui a les mêmes attentes et c'est correct et c'est ok. Et ça a été ma découverte que je pleure devant des films. Puis c'est ça.
Ça c'est nouveau aussi.
Oui. Je me permets. Avant je pleurais pas.
Et moi je voudrais aller peut-être si tu veux sur le chemin du pardon. Prends une petite gorgée.
On va prendre deux.
Parce que c'est ça que dans une démarche de guérison, je pense que le pardon est incontournable dans ça. Et c'est pas toujours facile quand c'est nos parents, notre père, notre mère. Tu sais, la Bible dit honore ton père et ta mère. Donc cette notion d'honorer puis de protection, parce qu'il y avait, je pense qu'il y a une question que tu t'es protégé aussi. Et se protéger, ça veut pas dire ne pas pardonner, du moins je pense.
Tout à fait.
Donc peut-être tu peux nous parler de comment ta démarche de pardon dans tout ça.
Je pense que la démarche de pardon, la démarche de relation a été la plus difficile en tant que chrétienne, parce que tu penses souvent que si tu pardonnes, faut que tu réhabilites la personne dans ta vie. Si tu pardonnes, faut que la personne réintègre ta vie. Mm-hmm. Et ça, je me suis fait dire le nombre de personnes. Oui, mais là, faut que tu pardonnes. Puis là...
Surtout quand c'est tes parents,
c'est
ta famille.
C'est ça. Et en fait, ça a été vraiment un processus. Tu sais, parce que mes frères ont pris leurs décisions. Tout ça à des niveaux différents. Et moi, ça a été, je suis chrétienne. Faut que je montre l'exemple. Mm-hmm. Et faut que je pardonne. Puis il faut que je recrée.
Et toi, performante dans ça aussi.
Oui, c'est ça. Parce que sinon, Dieu, il m'aimera pas.
Ouais. Parce que sinon, parce que Dieu me demande de pardonner.
Et Dieu me demande de pardonner. Donc ça a vraiment été un processus de pardon, mais il y a des jours où il faut que je repardonne encore. C'est pas juste une fois j'ai pardonné puis tout est beau, tout est rose, mais ça a vraiment été ça de ok. Puis j'ai vraiment cherché là-dessus parce que justement le verset honore ton père et ta mère était vraiment un verset, je m'excuse de mes anglicismes aujourd'hui, trigger qui venait me
challenger.
Venait me challenger, c'est pas mieux.
Malheureusement,
défier.
Aurélie n'est pas là, c'est notre anglophone. Hein.
Mais défier est un très bon mot. C'est vraiment ça qui venait me défier. C'est comme honore ton père et ta mère afin que les jours de ta vie. Et là, c'est comme mais non. Non. J'étais vraiment comme bloquée. Et finalement, j'ai cherché comme c'est quoi vraiment honore ton père et ta mère, et j'ai pris cette décision de ne pas parler en mal, de ne pas, même si la relation n'a jamais été rétablie et à moins qu'il y ait repentance et tout ce qu'on pourrait commencer une relation, mais il y en a pas eu. Mais de mon côté, j'ai pardonné, j'ai fait ce choix là de pardonner. Alors, ça veut pas dire que quelquefois mes pensées ils partent pas ou je suis fâchée ou je suis mais quand c'est comme ça, je retourne sur ok Seigneur. Je vais réciter notre Père, tu sais. Pardonne-nous nos offenses comme on les a offensés, comme on les pardonne ceux qui nous ont offensés. Et c'est vraiment ça. Ça a été le défi.
Mais dans ta démarche de pardon, comme tu disais, c'est pas toujours rétablir une relation parce que tu as dû protéger ta famille aussi.
Oui, exactement. J'ai dû me protéger parce que quand je gardais cette relation-là, c'était vraiment compliqué. Ça prenait une semaine
C'était malsain.
Et j'ai vraiment dû faire ce choix-là. Puis tu peux pas l'expliquer ce choix-là à tout le monde. Tu peux pas, parce qu'il y a des gens qui comprendront pas. Il y a des gens qui ont des sensibilités différentes. Tant que t'as pas vécu, tu peux pas savoir. Tu peux pas te mettre à la place de la personne.
Mais en fait, dans le pardon, c'est pas garder d'amertume. C'est-à-dire que même si tu protèges ta relation, ta famille, et que tu mets pour un certain temps cette personne à l'écart, tu nourris pas d'amertume.
Exactement.
Et ça, c'est là la démarche importante du pardon. Parce que des fois, tu peux pas toujours rétablir la relation. Mais c'est ce qui se passe dans ton cœur. C'est là qu'il faut garder le cœur.
Et c'est ça vraiment, tout comme tu le nommes très bien, parce que l'amertume, c'est un poison. Hein. Puis ça te détruit à l'intérieur. Et pendant des années, je l'ai gardé. Pendant des années, je ne vais pas dire tout est beau, c'est magnifique. Non, c'est pas vrai. Pendant des années, j'ai nourri cette amertume-là. Et le pardon, ça te libère toi. En fait, je pense qu'on avait parlé dans une autre émission. Le pardon, ça te libère toi en premier dire ben, et c'est pas parce qu'il y a pardon qu'il y a réhabilitation.
Mm-hmm. Et ça, c'est... Et l'inverse, c'est des fois on pense que parce qu'on a rétabli une relation qu'on a pardonné, tu sais, parce qu'on se dit oh, mais en fait tout se joue dans le cœur, tu sais. Mm-hmm. Et des fois tu veux, parce que tu dis bon, c'est mon père, c'est ma mère, je vais reprendre la relation, mais si c'est pas guéri dans le cœur, le pardon il est en processus. Mm-hmm. Donc, tu sais, c'est difficile de juger parce que des fois, on pense, ben là, si t'as pardonné, ben ça revient comme avant, ou je le rappelle, ou on fait comme si. Mais non, ça veut pas dire que c'est ça le pardon. C'est vraiment ce que tu nourris dans ton cœur.
Et de plus en plus, je commence à rendre compte, au fait, le pardon, en fait, c'est même pas pour ces personnes-là. Le pardon, c'est pour nous.
C'est pour nous.
Exactement. Tu partages dans ton livre, Nadège, que toi aussi, quand plus jeune, t'as vécu de la maltraitance. Mmh. Et pendant quand même plusieurs un bon moment. Et comment est-ce que toi, t'es arrivé aussi sur ce chemin du pardon?
Vraiment, il faut dire que la prière m'a beaucoup aidée. Mm-hmm. Parce que je ne savais pas, en fait, que même les décisions que je commençais à prendre dans ma tête, ce n'était pas normal, en fait. Pour moi, c'était, je vais faire ceci. Pour moi, en fait, j'ai commencé à repenser même au mariage. Les jeunes filles pensent au mariage depuis l'enfance et tout ça. Moi, j'ai pensé au mariage, je pense, plus tard. Parce que pour moi, en fait, le mariage ne voulait rien dire. Ça ne voulait rien dire du tout parce que je n'ai pas vécu dans un cadeau d'un mariage bien, heureux, sain. Et pour moi, je disais, je pense que je dois faire des grandes études. Je dois être indépendante, je ne dois pas dépendre d'un homme. Je pense que je ne laisserai pas un homme prendre des déçus sur moi. Et pour éviter ça, je ne vais pas me marier. Je vais vivre ma vie, je vais être indépendante financièrement. Et tout ça parce que je regarde un peu ce qu'il y a avec ma mère. Et après, la maltraitance que j'ai eue à la maison. Et la belle-mère qui... ce travail qu'elle faisait. Bon, j'ai compris après dans les enseignements à l'église parce que j'étais une petite fille qui faisait j'étais excellente à l'école. Et elle a commencé à semer de graines
de doute.
En fait, elle avait l'habitude de me dire, t'es pas intelligente.
Pour te diminuer. Et
toujours te rabaisser, tu n'es pas intelligente, tu
fais rien. C'était comme en compétition avec toi, après.
Et tout ça. Oui, je sais pas, tu ferais, parce que j'étais un peu gâtée par mon père, parce que j'étais la cadette et tout, t'es pas intelligente. En fait, j'étais enfant. En fait, tu vois, les enfants, on les manipule facilement. Et pourtant, je faisais des très bons points. Dès qu'elle a commencé à me dire ça, mes points commençaient à chuter. Parce que je me disais, certainement, elle peut pas dire ça si c'était pas vrai. C'est que je suis pas intelligente, je suis pas... Et ça avait crié, ça commençait à baisser mes points. Mon père me posait la question, mais qu'est-ce qui se passe avec toi maintenant? J'arrivais pas à lui dire que...
Oui, parce que t'étais enfant, tu
faisais pas les liens. Oui, j'étais enfant, je sais pas faire le lien, c'est pas ce qu'elle m'a dit, ceci. C'était très compliqué. Et quand j'ai... Vraiment, Dieu, et c'est lui qui guérit, au fait. Ça vient pas un seul jour. Non. C'est vraiment une démarche, c'est vraiment une marche. Parce que c'était pas un seul jour que j'ai tout compris, j'ai pardonné et je commençais à changer ma pensée. Non, c'était petit à petit, en se laissant guider vraiment par le Seigneur, en se disant, Seigneur, je viens vraiment m'abandonner à toi. Et c'est comme ça qu'on s'est reconstruit. Et j'ai pensé à Sephora tout à l'heure, quand tu parles, j'étais là en train de te regarder. Annabelle a soulevé tout à l'heure, à force de performer, à force de vouloir être parfaite, que tout soit parfait et tout, tu te perds en chemin, en fait. Tu sais même plus qui tu es, tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais même plus ce que tu aimes vraiment. Pas tu te dis, tu faisais tout pour plaire, parce que tu as dit, tu voulais qu'on t'aime. Et c'est aussi ces pièges-là, moi, je t'ai tombé. Je me disais, si j'ai fait des efforts, j'ai fourni des efforts auprès de la femme de mon père, elle va m'aimer. Et à chaque fois que je fournissais des efforts, c'était encore pire. Et j'avais pris une décision. Jusque-là, je sais pas, Stéphanie pourra m'aider. Oui, sincèrement, Stéphanie pourra m'aider. Mais jusque-là, j'avais pris une décision à partir de ces jours-là que je ne change pas jusqu'aujourd'hui. Bon, moi, j'ai trouvé que c'est pas mauvais. Au fait, j'avais pris une décision. Je ne quémande jamais l'amour. Je suis vraiment quelqu'un qui ne force pas les relations. Si j'ai une bonne entente avec Annabelle, je sais qu'Annabelle m'aime, j'ai déjà aimé Annabelle, pour moi c'est bon. Mais si seulement Annabelle fait un truc comment dire, elle me montre d'une manière ou d'une autre que je devais fournir des efforts pour l'aimer. Mmh. Je coupe la relation.
Ouais. Mais je pense que
ou je coupe ça carrément. Je ne parce que je dirais on s'aime. Alors si elle me demande d'en faire plus, je ferai pas. Ouais. À force de fuir la déception, je ne force pas des relations. Je force plus des relations. Et je sais pas si c'est mauvais. Jusque là, je suis en quête vraiment de ça.
Docteur, c'est
docteur Stéphanie.
À toute humilité et simplicité, en fait, Dieu nous a créés pour s'aimer, aimer et être aimé, toi. Oui. Donc, c'est ce fameux réservoir affectif que malheureusement, de par notre enfance, dans nos expériences, on le remplit de la bonne ou de la mauvaise façon.
Oui.
Donc, moi, je te comprends très bien. Toute ma jeunesse, c'était si tu performes, je t'aime. Si tu joues, je t'aime moins. Donc, moi, j'ai dû dealer avec ça et apprendre devant Dieu. C'est lui, c'est seulement Dieu qui peut remplir sainement notre réservoir affectif. Et ça devient malsain. Et c'est, moi, je trouve que tu as bien fait de dire de ne pas changer. C'est de détecter, en fait, comment je veux que mon réservoir affectif soit rempli. Oui. C'est pas, Annabelle, si c'est gentil, mais si j'ai peur d'être déçue, si c'est toujours conditionnel, mais c'est pas une bonne façon de remplir le réservoir. Oui. Il se remplit, puis il se vide parce que c'est pas sain. Donc, moi, je trouve que c'est très, très bien de dire, moi, c'est avec Dieu. C'est Dieu qui remplit mon réservoir affectif. Et les autres, je veille sur mes relations, mais c'est pas ces personnes-là qui vont faire que je suis importante, que je suis performante. L'amour avec les autres ne détermine pas mon identité. C'est l'amour avec Dieu qui détermine mon identité. Et ça, c'est sain. Et je trouve ça bien parce que plein de gens, et surtout chez les femmes, tout le monde, on cherche... des fois, c'est bon d'analyser. Pourquoi je pose ce geste-là? Parce que je veux qu'elle m'admire ou à mon travail, parce que je veux que mon patron m'aime, avec mon mari, parce que je veux qu'il me trouve top. Et tu vois, c'est important de dire, je pose le geste sainement parce que je reçois pas, j'attends pas que les gens m'aiment en retour. Je suis aimée de mon Dieu et mon amour vient de lui et moi je me déverse dans les autres, dans l'amour. Oui. Ça, je pense que c'est bien.
Moi, oui, c'est
une bonne réponse.
C'est bien. Parce que je me dis, si il y avait un problème dans ça, c'était que je voulais bien que Annabelle m'aime. Non, je suis déjà quelqu'un qui aime les gens. Moi, je suis comme ça. J'aime les gens. Alors là où j'avais pris la, je dis. Déjà automatiquement j'aime quand je m'approche de que j'aime les gens sincèrement. Alors si quelqu'un, tu vois, j'ai commencé à me dire je veux des relations saines. Je veux pas des relations de dépendance où je m'attends à ce qu'Annabelle m'aime, qu'Annabelle fasse tous les gestes envers. Non, ça non.
Ouais, ça c'est sain.
Oui, et c'est comme ça que je suis devenue. Alors, Sephora, moi je reste dans Sephora.
Je voulais prendre mon avis en fait. Je te le donnerai quand même après.
Sephora, c'est Sephora qui vraiment, mais comme je disais, à force de chercher, de performer, c'est épuisant. C'est vraiment épuisant, même dans les nerfs. C'est vraiment épuisant de fournir des efforts pour qu'on s'aime, pour qu'on m'aime, pour que on me dise tu es bien, tu travailles bien. C'est quand même épuisant. Alors dans cette quête-là de te retrouver toi-même, tu en es où?
Oh, je ne m'attendais pas à cette question.
Où j'en suis, mais comme je disais tout à l'heure, c'est un processus.
Aurélie,
c'est un processus parce que tu vis aussi les saisons de la vie qui sont différentes. Pendant longtemps, je me suis identifiée en tant que maman. Et là, mes enfants grandissent, donc c'est comme, ils ont moins besoin de moi. Donc je me retrouve à des soirées, je suis comme... Bon, ben, j'ai rien à faire. Donc, c'est d'apprendre à être. Puis, mon mari me le dit souvent, apprends à être plutôt qu'à faire. Parce que moi, tu sais, si tu parles de Marthe et Marie, j'ai une très forte tendance à être une Marthe. Toujours, je suis occupée. Il y a toujours quelque chose à faire. Je vais voir les besoins, je vais les faire. Et en fait, d'apprendre juste à être, puis être dans la présence de Dieu, être dans le repos de Dieu. Je te dirais que c'est ma saison en ce moment d'apprendre ça.
Seigneur, d'apprendre qui tu es.
D'apprendre qui je suis en Dieu.
Sans faire, dans l'activité, dans les...
On a changé d'église aussi dernièrement, donc tu arrives dans une nouvelle église, puis c'est comme, t'apprends à ne pas faire, t'apprends à être, à connaître les gens, et tout ça, donc t'apprends vraiment aussi, puis d'obéir, puis c'est drôle parce que j'aime ça avoir des mots dans des saisons, puis cette année, mon mot de la saison, c'était, dans chaque année, je demande un mot à Dieu, puis cette année, c'était rythme du ciel. Moi, je suis quelqu'un qui suis toujours, je carbure à fond. Là. Stéphanie, elle a deux vitesses, puis moi aussi, c'est comme à fond.
Nous, on est à fond ou arrêté. Le loup en 15 minutes. Tu vois, le loup en 15 minutes.
C'est ça. Vraiment, moi, je crois en toi et je t'encourage.
Oh, merci, Nadège.
Allez vraiment à cette quête, parce que quand on se sent perdu, tu es perdu pour tout, dans tout le domaine, alors. pour cette quête, ça serait très bien pour toi de te vraiment de, et c'est bien que tu veux le faire avec Dieu. Ça, c'est vraiment,
Et tu vois, c'est quand on est qu'on fait. On fait mieux quand on est. Et souvent, on fait l'inverse. Quand on fait, on essaie de trouver une identité. Mais quand je suis bien et je suis, c'est là que Dieu me propulse parce que je fais les choses pour lui. Je fais les choses pas pour recevoir, pas pour être vu, pas pour des vues, pas pour des likes. Je suis et après ça, je fais. Et ça, c'est très important.
Dans la j'ai eu une saison aussi où là, pendant un an et demi, deux ans, j'ai coupé tout mon Instagram. J'avais bâti un, j'avais comme l'Instagram parce que je faisais de la musique.
Maintenant, elle bâtit le mien, tu vois.
Ouais, c'est ça. Parce qu'on est sur le truc de Stéphanie, bon, les trucs qui sont bien. Stéphanie, quelquefois, dit, c'est correct, j'ai repartagé ça. Ouais, on va laisser, c'est correct, Steph. Mais, j'ai appris vraiment à enlever tout, j'ai enlevé tout mon Instagram. J'ai supprimé tous mes followers, j'ai supprimé tout ce que je followais. Puis, je prends un an et demi. Plus rien, par pure obéissance. Les gens m'étaient malades, qu'est-ce que tu fais? Non, par pure obéissance de, je me définis pas parce que, je fais par le nombre de likes, par le nombre de.
Mais tu sais, c'est important de garder l'idée qu'on est aimé pas pour ce qu'on fait, on est aimé pour qui on est. Des perles précieuses, des œuvres d'art devant Dieu, le poème de Dieu, c'est qui nous sommes. On n'est pas parfait, mais Dieu nous aime.
C'est tel quel. Et supprimer ça, moi, je pense, c'était bien pour toi parce que c'est toi qui dois avoir le contrôle. Pas que ces choses te contrôlent toi. C'est toi qui dois avoir le contrôle.
J'étais toujours en train de penser, bon, là, faut que je poste ça, là, faut, c'est comme, wow, à un moment donné, ça marche pas. Donc, j'ai tout supprimé.
Merci beaucoup Sephora d'être venue nous partager ton parcours et de voir comment Dieu l'a fait. Puis j'ai apprécié aussi que tu sois authentique dans ton partage en nous disant là où t'en étais aujourd'hui. Puis tu vois Nadège, je t'encourageais, donc c'est bon, on croit en toi, nous aussi Sephora.
C'est sûr qu'on croit à elle.
Si vous aussi vous avez vécu ce passé, un passé difficile, un passé où il y a eu de la violence, il y a eu de la manipulation, il y a eu de la trahison, des déceptions, de la maltraitance, toutes ces choses qui ont brisé votre cœur et vous dites, mais je me reconnais dans l'histoire de Sephora, mais par contre, je me reconnais pas dans l'issue de son histoire. Eh bien, on prie que vous puissiez découvrir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui libère, l'amour de Dieu qui affranchit par la vérité. Et c'est vrai qu'il y a ce moment où on est confronté à la vérité de ce qu'on a pu vivre, parce que c'est en acceptant, en sachant ce qu'on a pu vivre, d'où on vient et pourquoi on est aussi blessé aujourd'hui, que le Seigneur va aussi pouvoir nous guérir. Donc ne fuyez pas ces temps avec le Seigneur, surtout si vous sentez qu'il vous met à part, si vous sentez qu'il y a des choses qui sont en train de bouger à l'intérieur, ça vous dérange parce que comme Sephora vous dit, mais non, moi je suis pas sensible, moi je pleure pas, moi je suis pas comme ça normalement, eh bien c'est peut-être l'œuvre du Saint-Esprit en vous qui commence à faire quelque chose et ne repoussez pas ce temps. Il vous donnera la grâce qu'il faut pour passer à travers. Et je comprends aussi que quand on entend le témoignage de Sephora ou d'autres témoignages comme ça, on se dit, mais moi, j'ai pas envie de vivre ce qu'elle a vécu, ce moment où je suis complètement arrêtée. L'histoire de Sephora est l'histoire de Sephora. Le Seigneur opère d'une façon différente d'une personne à l'autre. Alors, n'ayez pas peur, ne fuyez pas ce temps. Peu importe la forme que ça prendra, si c'est le chemin de votre libération, le chemin de votre délivrance et le chemin aussi de votre restauration, eh bien, nous vous en supplions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Laissez-le faire son œuvre. Et je vous assure que l'amour de Dieu, l'amour de votre Père Céleste ne vous décevra jamais et que ce sera une grande source pour vous de guérison intérieure totale, comme il a pu le faire dans la vie de Sephora. Et nous, on se retrouvera mercredi pour une prochaine émission et on se dit bye bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.